Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h, temps universel. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Tout de suite, un point complet sur l'actualité. Situation toujours tendue au Burundi. Nouvelle journée de manifestation. Ce vendredi, un manifestant est tombé sous les balles de la police dans le quartier de Musaga, dans la capitale Bujumbura. Les détails avec Issia Kaba.
Selon des témoins, plusieurs centaines de personnes ont tenté de se regrouper dans ce quartier considéré comme l'un des foyers de la contestation contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. La victime a été tuée par une balle tirée par la police. Il est mort alors qu'il était pris en charge par la Croix-Rouge. Après plus d'un mois de manifestations quasi quotidiennes, émaillées de violence, la police burundaise est parvenue depuis mercredi à étouffer quasiment tout regroupement de protestation dans les quartiers de Bujumbura. Sur le plan politique, la question de la légitimité du troisième mandat est derrière nous, affirme à VOA Afrique, Willy Nyamitwe, conseiller de la présidence. Pourtant, hier encore, c'est Kofi Annan qui s'est fait entendre. L'ancien secrétaire général de l'ONU a demandé au président burundais de renoncer à son projet. L'opposition, de son côté, a rejeté hier Saïdi Djinit comme médiateur dans cette crise. Le représentant du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs est jugé trop conciliant sur la question du troisième mandat. En attendant, les Burundais attendent toujours de connaître le nouveau calendrier électoral. Un report des élections jusqu'à mi-juillet devrait être entériné conformément aux recommandations des chefs d'État de l'Afrique de l'Est à Dar es Salaam.
Et par ailleurs, l'ONU appelle au désarmement rapide des groupes de jeunes affiliés aux partis politiques au Burundi, surtout les Imbonerakure du parti au pouvoir. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité a en outre invité les Burundais à la retenue et a porté son soutien à une proposition de l'Union africaine d'envoyer des observateurs pour veiller au respect des droits de l'homme. Au Ghana, bilan revu à la hausse de l'explosion de mercredi soir dans une station-service. La catastrophe a fait plus de 150 morts dans le centre d'Accra. C'est ce lundi que débutent 3 jours de deuil national dans le pays. Ce vendredi, le président John Dramani Mahama s'est rendu sur place en compagnie du président du Togo voisin, Faure Gnassingbé. Les deux chefs d'État ont visité la scène du drame et l'hôpital. Aux discussions d'Alger sous l'égide de l'ONU, les rebelles du Nord Mali ont convenu de signer le 20 juin à Bamako l'accord de paix et de réconciliation avec le gouvernement malien. C'est ce qu'a annoncé le leader du groupe, Bilal Aga Chérif. Les précisions de Lionel Gaïma.
Nous signerons l'accord de paix le 20 juin, a assuré Bilal Ag Achérif aujourd'hui à Alger. En attendant, l'émissaire de l'ONU, Mongi Hamdi, a fait savoir de son côté que les deux parties étaient parvenues à un accord de cesser le feu dans la ville septentrionale de Menaka, avec le retrait de groupes armés pro-Bamako de la zone pour être remplacés temporairement par les troupes onusiennes. Un deuxième texte politique traite de certaines demandes de la coordination des mouvements de l'Azawad. Nous signons deux textes aujourd'hui, un sur la sécurité, un sur la politique, qui permettront à la coordination d'aller de l'avant et de signer l'accord final, je l'espère, le 20 juin à Bamako, a déclaré à Reuters Mongi Hamdi avant une cérémonie de signature à Alger. Des groupes armés pro-gouvernementaux ont repris Menaka aux séparatistes en avril dernier, lors de violents combats qui ont compliqué les efforts internationaux pour obtenir un accord de paix final. Le gouvernement malien a accepté un accord sous l'égide de l'ONU en mars dernier, mais la coalition rebelle a retardé une signature définitive.
Scène de chaos à Pointe-Noire et Brazzaville où des milliers de lycéens ont provoqué d'importants dégâts dans la capitale congolaise. Les manifestants sont en colère après l'annulation des épreuves du baccalauréat pour fraude massive selon le communiqué du gouvernement. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Elo Matson Mambuya, a annoncé à la presse qu'une nouvelle date serait fixée ultérieurement pour ce baccalauréat. La République démocratique du Congo qui réfute les accusations outrancières de l'ONG britannique Global Witness, dont le dernier rapport vise selon Kinshasa à casser ses efforts en vue d'une gestion durable des forêts congolaises. Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'insurge contre les abus systématiques commis par les forces gouvernementales et les djihadistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. C'est ce qu'affirme Zeid Raad al-Hussein qui appelle le gouvernement du nouveau président Muhammadu Buhari à engager des poursuites contre tous les auteurs de ces exactions. Les précisions de Timothée de Langmaille.
Les civils fuyant les violences ou qui ont été secourus dans des villes occupées par Boko Haram dépeignent une situation de terreur absolue et de graves violations des droits humains, a dit le patron du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Selon Zeid Raad al-Hussein, les survivants font aussi état de violations du droit humanitaire international par les forces de sécurité. Parmi les exactions de Boko Haram qu'il a citées, des meurtres gratuits, des exécutions sommaires, des participations forcées à des opérations militaires, y compris l'emploi d'enfants pour faire exploser des bombes, les mariages forcés et les violences sexuelles, y compris le viol. Le responsable onusien des droits de l'homme a exhorté la nouvelle administration du président Muhammadu Buhari à prendre des mesures urgentes pour traduire les coupables en justice, qu'ils appartiennent à Boko Haram ou à l'armée, a-t-il précisé. Tout en reconnaissant l'immense défi auquel fait face le gouvernement nigérian dans sa lutte contre Boko Haram, Zeid Raad al-Hussein a souligné la nécessité absolue pour les forces de sécurité de respecter les règles de l'état de droit.
Et le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui s'est également inquiété qu'aucune enquête n'ait été lancée au sujet de soldats congolais soupçonnés d'avoir fait disparaître 11 civils en République centrafricaine, c'était il y a 15 mois. Au Nigeria, le double attentat suicide d'hier dans un marché bondé de Yola a fait 31 morts et 38 blessés. C'est le nouveau bilan donné par le porte-parole de la police locale. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État burkinabé de reprendre l'enquête sur les meurtres en 1998 du journaliste Norbert Zongo et des trois personnes qui l'accompagnait. Les juges ont également ordonné à l'État burkinabé de verser 25 millions de francs CFA à chacun des conjoints, 15 millions à chacun des enfants et 10 millions à chacun des mères et pères de Zongo et de ses compagnons. Le Niger est devenu ce vendredi le premier pays au monde à ratifier le protocole international de l'Organisation internationale du travail contre l'esclavage moderne. L'OIT estime que 21 millions de personnes sont victimes de travail forcé dans le monde, générant approximativement 150 milliards de dollars de profits illicite par an.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Aux États-Unis, l'Office of Personnel Management, qui gère les effectifs du gouvernement fédéral américain, a indiqué que les données personnelles d'environ 4 millions de fonctionnaires actuels et anciens auraient été compromises. Les explications de Camille Grosdidier.
Cette cyber-intrusion aurait été fomentée en décembre par des pirates informatiques chinois, peut-être liée au gouvernement au pouvoir à Beijing, a expliqué l'OPM. Hong Lei, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réagi avec virulence vendredi, fustigeant des accusations irresponsables. De telles attaques sont en général anonymes et il est difficile d'en déterminer les origines, a-t-il poursuivi. À Washington même, un porte-parole de l'ambassade de Chine, Zhu Haikan, a souligné que la Chine a interdit le piratage informatique. Tirer des conclusions hâtives et lancer des accusations sur la base d'hypothèses sont irresponsables et contre-productifs, a-t-il déclaré dans un communiqué. OPM précise avoir détecté les pirates en avril. Le FBI, la police fédérale et le département de la sécurité intérieure ont lancé une enquête.
Parlons à présent du dialogue politique entre les partis en conflit en Libye. Il va reprendre lundi au Maroc. C'est ce qu'annoncent les Nations Unies au lendemain d'une rencontre à Alger entre des responsables libyens qui ont appelé à la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale. La rencontre à Skirhat permettra de débattre du nouveau projet d'accord élaboré à partir des dernières remarques en date des partis. L'ONU tente depuis des mois de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement d'union nationale. La rébellion chiite au Yémen a accepté aujourd'hui de participer à des pourparlers avec le gouvernement à Genève, initié par les Nations Unies, pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravage ce pays de la péninsule arabique. Aucune date n'a été fixée officiellement pour ces discussions, mais selon des sources à New York, elles commenceront le 14 juin. En Turquie, le quotidien turc Cumhuriyet défraie la chronique. Le journal affirme que le gouvernement Erdogan avait facilité l'entrée de combattants djihadistes en Syrie une semaine après avoir provoqué un tollé en diffusant des images suggérant qu'il leur avait aussi livré des armes. Dans son édition d'aujourd'hui, le journal proche de l'opposition écrit que les services de renseignement turcs ont loué deux bus pour justement amener ces aspirants djihadistes du côté de la Syrie. En Europe, ces chiffres dévoilés hier par l'Observatoire européen contre les drogues et les toxicomanies, le cannabis est la drogue la plus consommée en Europe, puisque 23,3% des Européens adultes estiment en consommer. La cocaïne vient en deuxième place. 4,6% des adultes affirment en avoir consommé. C'était en 2013. 62,6 tonnes de poudre blanche ont ainsi été interceptées au cours de plus de 78 000 saisies. Environ 2 millions d'Européens ont consommé de l'ecstasy. Voilà, ainsi s'achève ce point sur l'actualité. Prochain point sur l'information, 18h30 sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.